Vous écoutez le podcast Linguisticae, le tract des linguistes atterrés, une réponse scientifique aux paniques sur les mots. Cet épisode a été écrit par Monté de Linguisticae et Caliane, et nous vous souhaitons une bonne écoute. Dans un des podcasts précédents, j'évoquais à la toute fin que l'on avait mis un collectif sur pied pour proposer un contre-discours sur la langue basé sur l'état de la recherche actuelle et construit autour de spécialistes du sujet. C'était il y a un moment, mais sachez que dès lors, ça a été la folie. Réponses dans le Figaro et dans Marianne, plateau télé, les réactions outrées qui vont bien avec, presse écrite, rencontre IRL, on a à peine eu le temps de souffler. Mais avant de vous raconter tout ça et comment nous en sommes arrivés là, eh bien commençons par le début. Parfois, il est difficile de remonter à la genèse d'un projet. Moi-même, en reprenant tous mes mails, j'ai eu grand mal à établir une généalogie précise d'une initiative collective qui, comme son nom l'indique, est probablement le fruit d'envies conjointes et de rencontres diverses. Je me souviens, par exemple, en avoir parlé sur Twitter avec Laëlia Véron, ou encore avec Jérôme Piron et Arnaud Hout après leur spectacle à Granville, alors que nous étions au bar et probablement plus tout à fait lucides. Tout ça, c'était fin 2021, et cette idée était déjà en réalité présente dans les esprits d'autres personnes du collectif, à d'autres instants et dans d'autres discussions, parce qu'elles trouvaient la vulgarisation limitante, ou parce qu'elles étaient lassées d'un traitement médiatique qui ne rendait service à personne, ou parce qu'elles en avaient marre d'être dans la réaction permanente au sens propre du terme.
Je pense qu'il faut faire vraiment attention au débunkage, ça concerne la linguistique, mais ça concerne le débat d'idées en général, parce que si on ne fait que répondre à toutes les conneries qui passent, eh ben, on risque de se mettre au niveau de ce discours-là. Finalement, on parle de choses qui sont pas intéressantes. Moi, si je reviens sur toutes les bêtises qui sont dites, par exemple, sur l'écriture inclusive, ben, je vais parler que d'écriture inclusive, et je pense quand même que c'est un tout petit aspect des liens intéressants entre genre et langage, qui est lui-même un tout petit aspect de tout ce qui est intéressant en linguistique. Si on ne fait que répondre aux bêtises qui sont dites, on sait très bien de quoi On va parler d'écriture inclusive, de l'arabe, des jeunes, des anglicismes, et c'est tout. Et franchement, enfin, il y a tellement d'autres choses à dire que non, ce n'est pas intéressant.
Et c'est comme ça que, courant juin 2022, j'ai rejoint un bateau encore en construction et dont le nom provisoire était le Manifeste. Très rapidement, moins d'un mois plus tard, nous avions déjà notre direction globale. Nous allions rédiger un tract au format Gallimard, c'est-à-dire d'une cinquantaine de pages, que l'on a découpé en 10 mini-chapitres et que nous nous sommes répartis pour attaquer la rédaction. Il y a fallu faire des choix, fusionner ou supprimer des thématiques pour tout faire rentrer, et bien sûr continuer à faire venir des gens dont la spécialité était en accord avec les dites thématiques pour renforcer notre légitimité, et il va sans dire éviter de dire des conneries. Dans le tas, il y avait évidemment quelques chapitres évidents, mais leur ordre posait question. Finalement, on a attaqué par le commencement l'idée que l'on se fait de notre histoire linguistique, et évidemment, ça nous a fait aller à contre-courant des formules habituelles. Premier chapitre du tract. Le français n'est plus la langue de Molière. Deuxième chapitre du tract. Le français n'appartient pas à la France. Évidemment, parler de tout ça, ce n'était pas une mince affaire. Molière et la place que la France se donne vis-à-vis de sa seule langue officielle, il y a matière à indigner. L'idée, évidemment, n'était pas du tout celle-là. Elle était au contraire d'ouvrir les horizons, d'appréhender l'idée de continuum historique et géographique dont j'ai maintes fois parlé sur ma chaîne. Pour traiter de ce premier chapitre, on a alors pris Gilles Siouffi, historien de la langue française et professeur à la Sorbonne, et pour le second chapitre, nous avons pris Jean-Marie Klickenberg, linguiste belge ayant notamment écrit sur la délicate question de la politique linguistique. Pour résumer, si le français n'est pas celui de Molière, c'est tout simplement parce que la langue a évolué. De fait, de nombreux mots utilisés par Molière ont changé de sens, la grammaire n'est plus du tout tout à fait la même non plus, et la question de la traduction de ces textes qui ont 350 de moyenne d'âge se pose. Et oui, ce point en particulier indigne du monde. Mais nous ne lisons déjà plus aujourd'hui Molière dans son orthographe d'origine, et ce travail de retraduction, il a bien été fait pour Montaigne, qui n'est quand même pas beaucoup plus vieux. Et puis on pourrait aussi se demander pourquoi autant de sacralité autour d'un personnage qui, de son temps, utilisait du parler populaire, du jargon, des néologismes. Invoquer Molière pour défendre une idée rigide et haute de la langue, c'est en cela une trahison de son œuvre. Le français n'est pas non plus l'apanage de la France dans ses frontières actuelles. Le français existe en dehors et à côté, en Belgique et en Suisse par exemple, mais aussi par-delà où il fut apporté par la colonisation. Le français n'est donc pas homogène, celui du Nord n'est pas celui du Sud, et cette variation mérite qu'on l'étudie plutôt qu'on la combatte. Sur la base de ces constats, on a émis des propositions. Par exemple, étudier la langue à l'école, son histoire, favoriser l'ouverture sur d'autres langues ou sur d'autres variétés de la même langue, afin de déparisianiser le français et de dé-20e-siècleiser nos esprits et de mieux comprendre notre langue. L'une des choses que l'on a décidé de faire assez tôt, c'est aussi cela. Proposer des axes de réflexion, d'évolution de notre société, ne pas se complaire quelque part dans un débunkage un peu mou, mais au contraire œuvrer activement pour transformer la société et faire évoluer notre approche de la langue à toutes et à tous ici. C'est pour cela qu'il y a ces propositions. Et c'est, je pense, à titre personnel, l'un des axes forts de notre tract. Émettre une idée reçue, l'étayer par un exemple où elle aurait été émise ou défendue, que ce soit sur TF1, chez BFM TV, dans Marianne, et venir contrecarrer à la base un argument souvent très bancal et ouvrir sur des propositions pour élever le niveau du débat. Le grand classique en la matière, et le plus facile, j'ai presque envie de dire, c'est de s'attaquer à l'idée selon laquelle l'anglais détruirait le français de l'intérieur par ses emprunts, ou encore que l'Académie française régirait nos règles depuis sa tour d'ivoire. Troisième chapitre du tract. Le français n'est pas envahi par l'anglais. Quatrième chapitre du tract. Le français n'est pas réglementé par l'Académie française. Alors il y aurait matière à discuter sur chacun de ces points, mais entre nous, j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube et je risque de beaucoup en parler ici dans les podcasts. Au moment où vous êtes en train d'écouter cela, il y a probablement d'autres épisodes qui s'y sont sûrement déjà penchés. Si vous avez lu mon livre « Les mots sont apatrides », si vous avez écouté « Les collègues dans les médias », si vous connaissez mon travail en général, mais aussi celui de la plupart des personnes qui parlent de linguistique aujourd'hui, dans le milieu du débunkage, dans le milieu universitaire, vous savez déjà de quoi il en retourne. Après la phase d'écriture et nos derniers recrutements, notre collectif était déjà bien lancé. Mais il restait encore une lourde étape, la relecture. Personnellement, je n'ai rien rédigé, je n'ai recruté personne, et d'ailleurs je ne vois pas quelle légitimité j'aurais eu à le faire. Mais j'ai par contre évidemment assisté à la relecture, et puis évidemment, j'ai assisté aux discussions autour de la stratégie de communication à aborder.
Pour une fois qu'il y a 18 linguistes et qu'on essaye d'en faire converger d'autres qui accepteront de monter au créneau dans les médias et qu'ils fassent un petit peu un truc, je sais pas, comme un événement, les linguistes à l'assaut des médias, focaliser sur le métier de linguiste, sur des, tu vois, des gens qui font des études jusqu'au doctorat et qui passent leur temps, qui sont payés par les États, qu'en général, il n'y a pas énormément de boîtes privées qui payent le genre de recherche qu'on fait. C'est des recherches publiques. Et qu'est-ce que c'est que de linguiste et pourquoi, à un moment donné, on se met ensemble et on se dit « purée, mais c'est pas normal qu'on dise rien dans les médias, essayons un peu de faire connaître ce qu'on fait ». Il y a plein de raisons pour pas y aller. Il y en a vraiment une grosse, grosse masse de raisons pour pas y aller. Parce qu'on est vite ridiculisé quand t'as un format de 2 minutes devant un polémiste qui a vachement l'habitude. Et on n'a pas l'habitude de ce format, on peut être vite ridiculisé et démuni et pas… voilà. Et de notre côté, on commence à se dire qu'il y a quand même aussi plein de raisons pour y aller. Et c'est un peu ça, ce moment, je trouve.
Durant toute cette période de travail et jusqu'à la sortie du tract, il fallait tenir un embargo sur le contenu, sur sa sortie, sur son orientation. Bref, on avait de bonnes raisons de croire que n'importe quel journal réac allait être le foyer d'un contre-discours, avec une force de frappe sûrement plus forte que la nôtre, et on n'avait aucun intérêt à alimenter la bête avant d'être prêt à mener l'offensive. Pour le dire autrement, il fallait limiter les fuites de ce qui pourrait arriver aux oreilles du Figaro, principale rédaction et maîtrise de discours pseudo-scientifiques sur la langue, et avec de bons relais politiques et médiatiques, il nous serait impossible de contrecarrer. Et pourtant, malgré toutes ces précautions... Dans un manifeste à paraître en mai, un collectif de linguistes atterrés dénonce les discours sur les fautes qui satureraient l'espace éditorial et médiatique, arguant que la langue se forme à partir de l'usage de chacun. Une vision incomplète ? Marianne s'est entretenue avec le lexicologue et historien de la langue française, Jean Pruvot. Nous sommes le 17 avril, le tract doit sortir dans 5 semaines. Et ce délai, il est à la fois incroyablement long, puisqu'il peut s'en passer des choses, mais en même temps, c'est un délai très court. Parce qu'à ce stade, tout n'est pas encore fini. À ce moment, nous n'avons aucune visibilité sur le calendrier à venir, sur les retombées que l'on aura, aucun média n'est encore prévu pour que l'on puisse défendre notre truc. Et là, ça, cette surprise, cet entretien avec Jean Pruvot qui nous déglingue dans Marianne. Donc là, branle-bas de combat, échange de mails entre nous, on est quasiment dans la communication de crise avant d'avoir pu être dans la communication tout court. Et le plus étrange dans toute cette séquence, c'est que Jean Pruvot, c'est loin d'être un inconnu pour nous. Alors certes, c'est un acteur médiatique, il a pas mal écrit dans les colonnes du Figaro, il est intervenu comme caution scientifique dans des articles qui sont clairement portés sur la désinformation et que j'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, moi, personnellement, de débunker. Mais surtout, Jean Pruvot, nous on le connaît parce qu'il est aussi collègue avec certains de nos rédacteurs. Il en connaît d'autres. Mon éditeur personnel a déjà travaillé avec lui. Mais c'est par ce scénario digne de Littlefinger de Game of Thrones, et sans que l'on sache encore tout à fait ni comment ni pourquoi, que Jean Pruvot a réussi à nous faucher l'herbe sous le pied, pour le dire assez simplement. Un entretien dans Marianne pour nous répondre, alors qu'on ne s'est pas encore exprimé. Un entretien qui, au passage, nous vole notre exclu. Alors là, la première question que tout le monde se pose, et celle que l'on s'est posée nous-mêmes, c'est comment a-t-il pu répondre à un truc qui n'est pas encore sorti ? Parce que je le rappelle, il nous faut encore compter 5 bonnes semaines avant notre sortie officielle. Et si le tract sera bel et bien prêt dans la dernière quinzaine, nous n'y sommes pas encore. L'hypothèse la plus solide et celle que l'on a décidé de retenir, c'est celle-là. La critique n'a été formulée que sur la base d'un quatrième de couverture, déjà disponible et alors partagé sur Twitter, soit 2 ou 3 paragraphes qui, en réalité, ne disent pas grand-chose du contenu de notre travail. Cet entretien dans Marianne se limite alors, en demeurant à côté de la plaque, à passer la pommade à l'institution sacrée qu'est l'Académie française. Jean Pruvot dit par exemple « Nous avons aussi pléthore de dictionnaires, dorénavant gratuits et en ligne, comme les 9 éditions de celui de l'Académie française. Éric Orsenna a raison de dire que le mot kiffé entrera dans la prochaine édition du dictionnaire électronique de l'Académie française. » Au passage, quelques marottes sont ressorties comme pour nous associer au débat médiatique de l'époque, quand bien même cela n'occuperait qu'une place très minoritaire dans notre texte. L'écriture inclusive est un combat excessif et qui fait peu avancer les choses. Autant tout changer tant qu'on y est. Et bien sûr, bien que Jean Pruvot soit linguiste, l'anecdote personnelle qui vient contrecarrer des décennies de recherches en sciences du langage pour enfoncer le clou. Je ne crois pas qu'il soit difficile d'avoir une orthographe correcte. Ma grand-mère tenait un café à Boulogne-sur-Mer. Tout cet argumentaire, assez vide et en réalité tapant à côté de la cible, m'a personnellement interrogé. Notamment, toute cette lèche, parce que c'est le mot, à l'Académie française qui pourtant n'emploie pas vraiment de linguiste et reste au contraire décrié pour ses prises de position, son fonctionnement interne et son système monarchique et ancien régime pour sélectionner ses membres. C'est alors que, sans surprise, en fouillant un peu, on trouve le poteau rose. Jean Pruvot a lui-même candidaté auprès de cette institution pour la rejoindre. Et sans vergogne ni gêne envers les siens, comme avec cet entretien, il n'hésite alors pas, avec zèle, à lui faire savoir son intérêt. Cet entretien dans Marianne nous a donné des sueurs froides. Comment répondre et se défendre quand tu es sous embargo et que tu tentes de négocier des exclusivités pour ton lancement ? Eh bien, tu fais avec. Dans notre cas, Dieu soit loué, pas besoin de trop se prendre la tête. Plus de peur que de mal, hein, disons-le, l'entretien est passé inaperçu, l'ignorer restait la meilleure solution. Nous voilà alors soulagés, enfin, pour le moment. La sortie officielle du tract coïncidait avec pas mal de choses. Tout d'abord, une actualité dans le Figaro que j'ai traitée dans une vidéo de débunkage, que vous avez pu entendre aussi au format podcast, et qui avait été la formidable occasion pour parler de cette sortie, celle du tract, que j'avais teasée depuis presque un an. La seconde chose avec laquelle la sortie coïncidait, c'était une exclusivité médiatique que l'on avait enfin réussi à négocier. C'était en matinale, chez France Inter, Anna Beyer et Julie Neveu y expliquaient alors notre démarche.
Symphonique avec des gros flonflons, des pompons, des batteries, des percussions, et ça assourdit littéralement le paysage des francophones. Et donc on se retrouve avec des gens qui pensent qu'ils parlent mal en fait. Or, si ces discours sont sans arrêt en train de chercher des coupables, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à envisager la langue de façon scientifique. Ce n'est pas un objet d'étude pour eux, c'est littéralement un engouement totalement esthétique et passionné. D'ailleurs, ils disent tous qu'ils sont amoureux de la langue française. Moi, j'en peux plus, je crois, de voir nous amoureux de la langue française, on refuse qu'elle soit piétinée, abîmée, etc. Mais en fait, non, la seule façon d'abîmer une langue, c'est de ne pas la parler. Or, elle n'a jamais été autant parlée. Et il faut arrêter de faire sonner, de pousser des cris d'orfraie, alors qu'en fait, tout va bien.
Mais toute cette sortie rimait aussi, et c'est peut-être la plus grosse inconnue, avec un troisième événement. Le plus mystérieux de tous, la contre-offensive du Figaro. Jean Pruvot avait déjà joué une cartouche dans Marianne, c'était inattendu, mais les vrais bails, c'était pour maintenant. Et la rumeur d'une tribune dans le Figaro devenait de plus en plus forte la dernière semaine avant la sortie. Et sans surprise, au premier jour, on y a eu le droit. Dans les linguistes atterrés, le français va très bien, merci, un texte publié chez Gallimard, un collectif d'auteurs et de professeurs affirme notamment que le français n'existe pas et attaque l'Académie française. Jean Pruvot, linguiste et professeur émérite, leur répond dans une tribune co-signée par une vingtaine de spécialistes et amoureux du français. Vous avez bien entendu, Jean Pruvot, encore cet homme. visiblement au centre de notre opposition, fédérant autour de lui un certain nombre de signataires dont le pédigré, hélas, ne joue pas pour sa crédibilité. On y trouve des essayistes, académiciens, intellectuels, présentés et définis comme tels, très situés politiquement à l'extrême droite, et dont j'ai déjà eu affaire, personnellement, dans plusieurs vidéos de débunkage, pour leurs propos franchement mensongers et alarmistes sur la langue. Cette contre-tribune du Figaro avait néanmoins cela de nouveau qu'elle évoquait, à minima, des choses que l'on trouve dans le tract. Le tract avait été lu. Cela dit, notons quand même que pas moins d'un tiers du texte est dédié non pas à notre critique, mais bel et bien à la défense de l'Académie française. Alors, je ne vais pas revenir ici sur cette tribune, puisque l'article qui la relaie est payant, ce qui, en soi, était la meilleure nouvelle pour nous. C'était le meilleur moyen de ne pas trouver son public, ni de nous atteindre. D'ailleurs, et je ne sais pas si c'est pour ça, mais comme l'entretien de Marianne, la tribune du Figaro s'est aussi cassée la gueule. Quelques RT à peine sur Twitter, un écho quasi nul en dehors de leur noyau dur, alors qu'en parallèle, pour nous, ça décollait. Et ça décollait même bien. Il faut dire que nous étions aidés par une autre actualité. Une dictée sur les Champs-Élysées, parsemée de questions sur l'orthographe qui reviennent toujours à un moment dans l'année, et le quacoubet des jeunes, tout cela tombait à point nommé, c'était les points 5 et 8 de notre tract. Cinquième chapitre du tract. Le français n'a pas une orthographe parfaite. Huitième chapitre du tract. Le français n'est pas massacré par les jeunes, les provinciaux ou les Belges. La dictée, vaste sujet, visiblement grosse inquiétude dans les médias quant à sa probable disparition. D'ailleurs, sa disparition fait tellement peur que tous les ministres de l'éducation nous disent la remettre en place alors qu'elle n'a jamais cessé d'exister. Et pourtant, la dictée n'est pas une pratique pédagogique utile si l'objectif est de bien savoir lire et écrire. Et ça, Jules Ferry le disait déjà en 1880. L'orthographe, d'ailleurs, n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la finesse de l'esprit ou un gage d'intelligence. Elle n'est ni logique, ni tout à fait étymologique. On donne de nombreux exemples de paradoxes dans le tract, et d'autres nous viennent spontanément en interview. Pourquoi chariot s'écrit avec un R, et pourquoi charrue avec deux R, par exemple? Eh bien, c'est comme ça. C'est sans raison, ni logique. On propose alors de questionner notre orthographe, et à minima, d'appliquer la réforme de 1990 dans laquelle le tract est rédigé. Mon livre et mes vidéos aussi, d'ailleurs, depuis quelques années, et personne ne s'en rend compte. C'est dire si tout a changé. Et pour vous qui écoutez cela à l'audio, c'est encore plus indolore. Vous ne vous en rendez même pas compte. Avec le collectif, on défend aussi l'idée que la réforme de l'orthographe est un nivellement par le haut. Rationaliser, réapprendre, logifier un système devenu kafkaïen demande des efforts à tous, pour le confort de tous. Ce n'est pas céder à la facilité, au contraire, il est bien plus simple de ne rien faire. Par ailleurs, passer sa vie à chasser les barbarismes ou les fautes, ce n'est pas très intéressant. Étudier la variation et l'évolution de la langue, notamment chez les jeunes et comment ils se la réapproprient, en revanche, ça oui. Souvent, le purisme est un mépris de classe déguisé où la langue n'est alors qu'un prétexte, un vecteur, et il est plus intéressant à notre sens de valoriser la créativité et d'arrêter de hiérarchiser les registres et les styles qui occupent de toute façon des fonctions différentes. Avec la sortie de notre tract, on ne s'attendait en tout cas pas à un tel succès. Rupture de stock, réimpression en série, des sollicitations en veux-tu en voilà, et enfin de nouvelles thématiques qui jaillissent dans le paysage médiatique, et même si, inlassablement, on tente de nous ramener vers les mêmes sujets. Le premier d'entre eux est certainement l'écriture inclusive, car tout va à volo, évidemment. Et le Figaro, plutôt que de nous répondre, a décidé, tout comme CNews d'ailleurs, de refaire tourner la machine à clics et de réalimenter le moteur de la peur. C'est ainsi que Pascal Pro, dans une émission où il considère que le pronom « yel » est une forme de terrorisme, et oui, le mot est fort, expliquait que désormais, il faudrait employer le mot « missix » pour dire « monsieur, madame », et qu'il existait une forme de police de la pensée qui gangrène l'université et qui impose ses codes avec la complicité des ministres en exercice dont on soupçonne qu'ils sachent et qu'ils valident cette politique. En somme, un discours qui n'a aucun sens, mais qui marche auprès des journalistes. On a été nous-mêmes, en tant que collectif, invités sur BFM TV, sur CNews ou sur Sud Radio pour que l'on réponde à cela et que l'on alimente, malgré nous, à notre tour, la machine. Notre stratégie vis-à-vis de tout ça a précisément été de ne pas le faire. Car, disons-le, on n'a aucun intérêt à être cantonné à ces conneries. La question du genre, du yel, du neutre, ça n'occupe qu'un chapitre sur les 10 de notre tract. L'écriture inclusive, ce n'est qu'une demi-page de celui-ci. Et il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet. Neuvième chapitre du tract. Le français n'est pas en péril face à l'extension du féminin. Effectivement, rappelons-nous dans ce chapitre, le genre est arbitraire mais il ne l'est pas concernant les êtres humains, les pronoms, et la féminisation des professions a été la norme dans la langue, hormis, à partir de la Renaissance, celles qui sont considérées comme prestigieuses. Si l'Académie reste très hostile au féminin pour ses professions qui sont désormais mixtes, avocate ou sculptrice par exemple, elle a fini par en accepter le principe en 2019. L'écriture inclusive, quant à elle, a plusieurs formes différentes, concurrentes, qui ne disent pas toutes la même chose. Et effectivement, il faut le dire, les différentes formes d'écriture inclusive ne font pas consensus. Notre proposition là-dessus, elle est très simple. Pourquoi ne pas continuer à tester des moyens d'exprimer le genre dans la langue, puisque de toute façon, à terme, ne demeureront que celles qui seront imposées dans l'usage. Parce qu'à la fin, ce sont toujours les locuteurs qui décident. Parce que oui, la langue, c'est un outil qui est par essence démocratique. Le piège, évidemment, en tant que collectif de linguistes, c'est de se retrouver à ne parler que de ces sujets. Or, on ne voudrait pas que notre travail soit résumé à cette thématique du genre uniquement. Il faut avouer que le temps passant, c'est un piège dans lequel on pourrait tomber. Plus le temps va passer, et moins l'on va nous inviter pour parler et défendre notre tract et ses diverses thématiques. On nous invitera plutôt pour nous demander notre avis sur telle ou telle question de société, pour réagir à telle ou telle polémique du moment. Et entre choisir le risque de l'oubli ou le bourbier qu'est le débat d'opinion, eh bien, il y aura un dilemme à trancher. Il ne faut pas se leurrer, il est fort probable que nous ne serons bientôt plus d'actualité. Et au moment où vous écoutez ce podcast, nous avons peut-être même déjà été oubliés. Quand nous n'aurons plus la cote, l'agenda de nos invitations nous échappera alors. Les propositions iront en se raréfiant, et il se posera donc d'autant plus la question de qui envoyer, à quel endroit, pour intervenir sur quel sujet. Ces interrogations, il est vrai, sont absentes chez Pro ou chez Pruvot lorsqu'ils traitent de ces sujets pour vendre de la peur et se faire une place dans leur milieu conservateur et médiatique. Il en va de leur propre survie dans cet écosystème qu'ils convoitent et qui les nourrit. Et c'est tout le problème. Il est toujours plus dur de venir porter un discours pertinent, sourcé et construit, plutôt que de se pencher sur n'importe quel sujet sans réelle expertise. Parce que nous avons un objectif de vérité, alors qu'en face, il n'y a seulement qu'une volonté d'occuper l'espace médiatique et en la matière, eh bien, plus c'est gros et plus ça passe. Cela ne fait que quelques mois que nous avons surgi. Il est bien difficile de tirer une conclusion de tout ce que nous avons pu faire. Quelque part, nous sommes encore au centre du cyclone. Nous sommes restés plusieurs semaines de suite dans le top 10 des ventes en France, ce n'est pas rien du tout. Et donc le premier constat, c'est qu'évidemment, on a réussi notre coup. Mais entre le sprint et le marathon, il y a une différence de taille. Sur le fond, sur le long terme, je pense que nous gagnons du terrain, notamment aussi grâce au travail que je fais ici ou ailleurs, à celui que font d'autres vulgarisateurs, qui sont souvent eux-mêmes chercheurs, grâce à des spectacles comme celui de Jérôme et Arnaud dont j'ai parlé plus tôt, grâce à toutes ces personnes qui permettent de donner les clés aux gens pour mieux comprendre et pour mieux décortiquer ce qu'on leur dit sur la langue. Pour autant, ce n'est pas gagné. C'est un combat de tous les instants, car nous ne luttons pas à armes égales avec les discours omniprésents que nous cherchons à déconstruire. En cela, notre 10e chapitre essaye alors, humblement, d'expliquer ce qu'est la démarche de linguiste et à quel travail cela correspond. Et c'est peut-être là aussi l'un des meilleurs moyens pour sortir un peu des clichés courants. Celui du vieux sage qui, depuis sa tour d'ivoire, assène des vérités à la plaie parce qu'il a lu un livre, tous les livres, parce qu'il connaît les mots, tous les mots. C'est aussi un combat de représentation. Actuellement, trop souvent, les linguistes, les vrais, se retrouvent attaqués au motif qu'ils seraient des laxistes, des woke ou je ne sais quelle connerie, parce qu'ils ne condamnent pas le YEL ou parce qu'ils refusent de dénoncer les emprunts. Mais ce n'est absolument pas leur métier, ni leur rôle. Et de fait, la parole leur est donnée avec méfiance et assez rarement, puisqu'ils refusent de se plier à ce jeu qui consiste à venir émettre un jugement péremptoire sur tel ou tel phénomène. Alors qu'il suffit d'une phrase pour dire « le français va mal », il en faut des centaines pour expliquer que non, ça dépend, de quoi on parle, la recherche, tel sujet, dit que ça, alors que bon, tel spécialiste qu'on a invité, tel collectif qu'on a mis des mois à monter, etc., etc., etc. Et donc là-dessus, les linguistes, oui, ce sont de mauvais clients dans les médias. Ils partent de toute façon perdants. Ils n'alimentent pas la polémique de la façon dont on aimerait qu'ils le fassent. Le tract que nous avons écrit avec ce collectif nous permet, avec un travail de concision qu'il a été difficile de faire, de débroussailler un peu tout ça et d'enfin choper quelques micros en plein vol. Et pourtant, en même temps, et même si ce tract n'enfonce aucune porte selon moi et qu'il demeure en réalité assez consensuel dans le milieu des sciences du langage, même s'il ne dit rien d'incroyable, même s'il ne prend aucune position très audacieuse, eh bien c'en est déjà trop. Sauvons ces mots que l'on ne saurait défendre, la maison brûle, vite, hâtons-nous d'écrire des pamphlets ou d'allumer des contre-feux, quitte à être très insultants. Et d'ailleurs, en parlant d'insultes, plusieurs de nos camarades ont été copieusement insultés, notamment Julie Neveu après son passage à Quotidien. Nous en avions alors parlé ensemble sur Twitch, sur ma chaîne, et elle disait n'avoir jamais vécu autant de violence. Elle avait pourtant fait des plateaux pour parler de l'écriture inclusive, du YEL, etc. Mais là, ça avait pris de nouvelles proportions. Des attaques sur elle, sur ses enfants, sa vie, son physique. Tout cela pour avoir parlé très brièvement de la dictée et pour avoir remis en cause la pertinence de cet outil comme pratique éducative. Rendez-vous compte.
Bah, c'est-à-dire que c'est super violent. Non, donc déjà, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, mais là, ça a pris une ampleur plus grande, quoi. Évidemment, avec le retentissement de Quotidien et les extraits qui passaient en boucle et tout. D'abord, je m'en suis voulu d'avoir été approximative dans mes formulations. Après, j'ai donc fait rectifier, évidemment, en me disant, bah voilà, oui, en effet, j'ai pas été précise, évidemment, je parle pas des dictées pour les enfants. Ensuite, les insultes, donc j'en ai déjà eu. Bon, je relativise toujours, comme je disais, par rapport au plateau aussi, je relativise aussi ça.
Si la bataille de l'opinion est dure à mener, c'est que beaucoup de critiques qui nous sont adressées ne concernent pas le fond, mais la forme. Quand ce n'est pas directement du procès d'intention, d'ailleurs. Nous travaillons sur la langue, et évidemment, il y a un rapport affectif et une réaction émotionnelle immédiate sur ce genre de sujet. C'est un point que l'on a bien en tête, évidemment. Pour autant, contrairement à ce qu'on pourrait lire ou entendre par endroit, non, nous ne sommes pas des islamo-gauchistes ou wokistes ou je ne sais pas quoi. Le collectif est même hétérogène, politiquement parlant. Moi, par exemple, et je doute que vous l'appreniez maintenant, je suis marxiste, et je pense qu'il faut abattre le capitalisme. Je peux vous assurer, je peux même peut-être vous rassurer, ce n'est pas du tout une position partagée par tout le monde. Ni dans ce collectif que j'ai rejoint, ni auprès de mes amis, ni même dans ces gens qui m'écoutent et qui me suivent. Dans notre collectif, il n'y a pas non plus d'histoire d'opposition générationnelle, où nous serions nous les jeunes en croisade contre les vieux. Nous avons aussi des retraités, nous avons aussi des gens en début ou en fin de carrière, nous avons un échantillon assez large. Nous sommes précisément un collectif transgénérationnel. Et je suis d'ailleurs le plus jeune, me semble-t-il en tout cas, bien que je commence à me faire vieux. Et ce n'est pas parce qu'on a 80 ans ou plus que nous ne pouvons pas être progressistes, lucides et avec un discours un minimum construit et sourcé sur ce qu'est la langue. Notre collectif n'est pas non plus minoritaire en termes d'opinion. En fait, ce sont précisément les vieux linguistes médiatiques, pendeurs d'académie, comme Jean Pruvot, qui, chouchoutés par des journaux qui trouvent une caution intellectuelle, le sont. Ceux-là sont minoritaires. Une minorité bruyante, certes, mais une minorité. Nous ne sommes pas non plus des fossoyeurs de la langue française, et d'ailleurs, dédier sa vie à l'étude ou la recherche sur celle-ci prouve bien le contraire, et je dirais même que le niveau d'exigence et de rigueur intellectuelle est évidemment bien plus important lorsque l'on est linguiste que lorsque l'on se limite à déplorer si elle a la moindre nouveauté sans fondement. Cette conclusion part un peu dans tous les sens, mais tout ce que je cherche à vous dire et à vous démontrer, c'est que ce tract, ce n'est pas la mer à boire. C'est en réalité une première étape, une première pierre. Le moindre mal, ce n'est pas le grand soir ni la fin du monde. Et penser qu'il puisse l'être, je crois que cela prouve bien à quel point nous avons besoin que l'on remette l'église au centre du village, et même si, pour cela, il nous faut rappeler quelques évidences. Le travail que nous faisons est un travail de long terme, et hélas, rien ne pourra garantir aujourd'hui que l'on sera encore là pour faire front commun à l'avenir. Parce qu'il nous reste maintenant à voir pour la suite quels chantiers nous attendent, comment les mener, comment les faire exister, et comment y associer le maximum de gens. En tout cas, nous ne comptons pas nous arrêter là, et on espère bien que vous aussi, vous serez de la partie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. En espérant que vous avez passé un bon moment, c'était le podcast Linguisticae. Nous vous souhaitons une bonne soirée.